Il s'agit du fait que, quand on constate l'évolution des finances publiques européennes, en fait, le pacte de stabilité et de croissance n'a pas fonctionné. Grosso modo, les pays qui ont adhéré à l'Union européenne, à l'Union économique et monétaire, à la zone euro, ont bénéficié, avant la crise de 2007, incontestablement, d'une baisse des taux d'intérêt. Donc, ils ont bénéficié de l'aspect positif de l'intégration monétaire. Mais ils en ont profité davantage pour s'endetter, pour contourner l'esprit du pacte de stabilité et de croissance, que pour véritablement moderniser l'économie et assurer la convergence. Et le constat qu'on a pu faire, c'est qu'il n'y avait pas de véritable moyen de réorienter leur action. L'Union européenne, c'est aussi, d'une certaine façon, comme on le disait au XIXe siècle, un cercle de gentlemen. Mais si les gens ne se comportent pas en gentlemen, il faut essayer de trouver un moyen de faire davantage pression sur eux. Donc c'est cette idée, ce constat qui est fait. Néanmoins, il y a une limite à tout ça, c'est qu'en matière budgétaire, la souveraineté ultime appartient au Parlement et aux décisions des peuples. Donc il faut trouver un bon équilibre entre la nécessité de conserver la cohérence du dispositif par une forme de solidarité imposée et la nécessité de respecter les règles démocratiques en vigueur dans les pays concernés.
La gauche a dénoncé une réforme trop axée sur la rigueur et pas assez sur la relance.
C'est toujours la même question, c'est-à-dire qu'on voit bien, notamment au travers du cas de la Grèce, que les politiques d'austérité brutales sont contre-productives. C'est-à-dire qu'elles servent à redresser les comptes extérieurs d'un pays, mais on est dans des situations où ce n'est pas ça le problème. C'est-à-dire qu'une politique d'austérité très brutale, en comprimant la croissance, comprime les importations, ce qui permet à un pays de revenir à son équilibre extérieur. Mais dans les cas des pays européens, le véritable problème, c'est un problème de déséquilibre des finances publiques. Donc il faut trouver un moyen d'éviter cet effet sur la croissance. Et donc il faut trouver une politique de rigueur, de retour à l'équilibre des finances publiques qui ne casse pas la croissance économique. Alors de là à parler de relance, c'est peut-être un peu excessif, même s'il n'y a pas que la gauche, c'est aussi le discours qui a été tenu par les autorités américaines à la dernière Assemblée générale du Fonds monétaire international, en disant que l'économie mondiale étant encore convalescente, se lancer dans des politiques d'austérité et de rigueur aurait comme conséquence de casser la demande et d'amplifier les tensions déflationnistes qu'il y a au niveau de l'économie mondiale. Alors, ce point de vue des Américains est extrême et excessif. Il est incontestable que la bonne politique économique, c'est une politique économique qui ménage les finances publiques tout en évitant de casser la croissance. Et d'expérience, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que d'après les études de l'OCDE, la bonne politique économique dans ce cas-là, c'est pas d'augmenter les impôts, mais de baisser les dépenses publiques. Et là, je ne suis pas sûr que la gauche française me suivrait sur ce terrain.
Et donc, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a épinglé Paris et Berlin dans la gestion de l'Europe. Il reproche au président français Nicolas Sarkozy et à la chancelière Angela Merkel de conduire seuls les affaires européennes. Donc, est-ce que l'on peut effectivement diriger un budget européen à deux ?
C'est une tradition d'avoir quand même un rôle déterminant et un peu plus important que celui des autres pays pour les Français et les Allemands. Il faut voir quand même que c'était mis en place depuis quelques années, non plus ce couple franco-allemand, mais ce qu'on appelait une sorte de G4, c'est-à-dire le couple franco-allemand plus l'Italie et le Royaume-Uni. Et donc, on peut effectivement regretter que l'Italie et le Royaume-Uni ne se sentent pas plus impliqués dans les affaires européennes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand M. Barroso accuse la France et l'Allemagne d'exercer trop de pouvoir et trop de responsabilités, c'est un peu le constat que lui, il n'en exerce pas assez. Et je crois que beaucoup de gens le critiquent par la non-existence de son mandat, c'est-à-dire par sa difficulté à prendre des décisions, à s'affirmer et à être une force de proposition.
Alors, M. Barroso a proposé l'instauration d'une taxe sur les transactions financières qui pourrait, selon lui, rapporter jusqu'à 55 milliards d'euros par an. Est-ce une solution envisageable, selon vous ?
Moi, je suis contre cette taxe. Je pense que toute l'économie européenne a mis des siècles à se débarrasser des péages. Vous savez, autrefois, on mettait des taxes à l'entrée des villes sur les marchandises qui rentraient et on mettait des taxes sur tout ce qui bougeait sur le plan physique ou sur le plan intellectuel. Et un des grands apports de la théorie économique du 18e et du 19e siècle, c'est d'avoir réussi à persuader les dirigeants qu'il fallait lever les taxes sur le mouvement, le taxe sur le flux, le taxe sur la dynamique des choses, sur la dynamique de l'activité. Et donc, pour moi, la version que l'on donne de cette taxe sur les transactions financières, c'est un retour à une fiscalité médiévale. C'est moyenâgeux comme idée de taxer les gens qui bougent. On va obliger les gens à s'enfermer sur eux-mêmes, à se replier sur eux-mêmes. Alors c'est très à la mode, la référence est l'économiste américain Tobin qui a eu le prix Nobel dans les années 80. Je pense d'abord qu'il serait indigné de voir ce qu'on fait de ses idées et je pense que ce genre de taxe, c'est un gadget, mais ça ne répond pas au véritable problème. Pour faire simple et conclure sur ce sujet-là, il suffit de bien se rendre compte que si on rajoute une taxe sur les banques, elles vont le répercuter dans leurs prix. Et on ne peut pas à la fois dire que l'économie a des taux d'intérêt qui sont des taux d'intérêt pénalisants dans un certain nombre de circonstances et d'un autre côté vouloir en rajouter sur ces taux d'intérêt.
Monsieur Barroso a également déclaré « la Grèce est et restera dans la zone euro malgré la crise de la dette qu'elle traverse ». Est-ce une bonne nouvelle pour l'économie européenne aujourd'hui ?
Je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'économie européenne et une bonne nouvelle pour l'économie grecque. Pour l'économie grecque, parce que si les Grecs quittaient la zone euro, ce serait pour pouvoir dévaluer. Et là aussi, c'est une erreur sur le diagnostic de la situation de l'économie grecque. L'économie grecque a besoin de percevoir ses impôts et non pas de baisser artificiellement la valeur du travail grec sur le marché international. En plus, l'économie grecque est ainsi faite qu'une dévaluation se traduirait par une inflation colossale en Grèce et pas par la solution des problèmes. Et c'est une bonne chose, je pense, pour la zone euro parce que on connaissait la réalité de l'économie grecque quand les Grecs ont été acceptés comme membres à part entière de la zone euro. On savait effectivement qu'il y avait des efforts à faire. Ils prennent des engagements de les faire de façon plus structurée et plus organisée maintenant. Leur départ sonnerait une sorte d'alali sur la zone. C'est-à-dire que tous les gens qui sont en embuscade pour essayer de détruire l'euro considéreraient ça comme le premier pas vers une explosion définitive de la zone. Et là, ce serait un recul considérable dans la construction européenne.